Midi 43 minutes, c'est comme c'est vendredi, c'est le moment du retour sur l'actualité de la semaine où nous revenons ensemble sur quelques dossiers que nous avons suivis cette semaine. Je suis donc en compagnie de presque toute l'équipe de la salle de nouvelles. Bonjour Philippe qui n'est pas là. Je suis donc rejoint par Laurence, Florence et Raphaël. Florence, je me tourne d'abord vers toi. On parle, tu as fait le suivi de la Direction de la protection de la jeunesse qui présentait son bilan pour l'année 2023-2024 dans la région.
Oui François, alors le bilan de la DPJ cette année, ce qu'il noté sur l'archipel, c'est 160 signalements rapportés par la DPJ. Ça représente une hausse de 21% par rapport à l'année dernière. De ce nombre, 44 ont été retenus, ce qu'on évalue à un taux de 32%. C'est un peu plus élevé qu'ailleurs au Québec. On retient plus d'appels sur l'archipel, donc quand on dit des appels retenus, en fait, je me suis informée, je ne savais pas ce que ça voulait dire. C'est vraiment que la DPJ va évaluer sur le terrain des cas. Et donc, je lui ai demandé à Michèle Frenette, la directrice de la DPJ, pour la région, pourquoi est-ce que le taux était plus élevé un peu plus pour les îles. Elle m'expliquait qu'aux îles, on a un filet social assez fort et donc une communauté sensible pour la protection de la jeunesse signifie qu'un travail qui est fait en amont pour cerner des cas qui nécessitent une intervention sur le terrain de la DPJ. Également, dans le bilan, on notait une thématique centrale, l'exposition à la violence conjugale. Donc, on voulait vraiment mettre en lumière les impacts de l'exposition à la violence sur les enfants. Et donc, il y a eu un changement législatif en avril 2023, il y a plus d'un an, pour séparer la violence conjugale des mauvais traitements psychologiques pour vraiment analyser son impact sur les enfants. Et donc, c'était très intéressant de noter que le nombre de signalements liés à cet enjeu a plus que doublé en 10 ans au Québec. Pour la Gaspésie et les îles, l'exposition à la violence conjugale représente près de 4% des cas pris en charge actuellement.
Et on doit noter que la violence conjugale est toujours en plus forte présence dans les régions éloignées. En fait, dès qu'on sort en périphérie des villes et même dans les régions éloignées, les taux de violence conjugale sont notamment beaucoup plus élevés.
Et oui, et donc, ce qui conclut aussi le bilan, c'est que la provenance des signalements de la région des Gaspésie et des îles provenait en majorité des employés des organismes communautaires à plus de 35%. Le milieu familial représente au moins de 15% des appels et la négligence et la maltraitance psychologique se situent en tête des problématiques traitées par la DPJ de la région.
Merci beaucoup, Florence. Laurence, en santé maintenant, la Direction régionale de la santé publique de la Gaspésie et des îles a rendu public lundi un rapport dans lequel elle documente les apprentissages liés à la pandémie de COVID-19.
Donc, la santé publique régionale, François, estime que l'équipe a quand même bien su répondre face à la crise, mais on pense qu'on ferait mieux la prochaine fois. On souligne notamment le manque de cohérence entre des mesures dictées par le gouvernement provincial au national et celles mises de la dans la région. Le docteur Yves Bonnier-Vigé croit notamment que certaines décisions auraient dû continuer à se prendre au niveau régional plutôt que national. Justement, on estime aussi qu'il aurait fallu peut-être mieux prendre en compte l'impact des mesures, les impacts psychosociaux, en fait, des mesures, quelque chose qui a été souvent décrié dans la population, faut-il le rappeler, particulièrement à nouveau dans les régions éloignées. Le rapport distingue aussi deux catégories de pistes d'action. Donc, premièrement, améliorer le travail préventif au quotidien. Donc, comment s'assurer qu'au jour le jour, ben, on maintienne les activités de prévention, qu'on soit prêt. Et deuxièmement, être mieux préparé dans le cas d'une possible nouvelle urgence, puisqu'il faut le rappeler, la pandémie de COVID-19, on était parti de pas grand-chose quand ça a débuté.
Voilà, on verra comment on se préparera à une prochaine épidémie, en espérant bien sûr que ça ne vienne jamais, mais il faut bien sûr y être prêt.
Oui, puis ça me permet de souligner une chose aussi, là, ce retour sur la pandémie de COVID-19 pendant que les événements se passaient, puis même dans les différentes analyses qu'on a pu en voir, il y a beaucoup de personnes qui ont soulevé puis critiqué le fait que c'était un discours qui était très uniforme au niveau de la santé publique. Yves Bonnier-Vigé est un très bon exemple qu'en fait, non pas du tout, les directions régionales de santé publique travaillait très fort derrière les portes, mais aussi même dans l'espace public, quand on parlait de régionalisation des mesures, de ne pas y aller avec du mur à mur, puis d'essayer de finalement bien peser les effets psychosociaux, tout ça, bien, sont tous des éléments qui ont été soulevés par le docteur Bonnier-Vigé extrêmement rapidement pendant la pandémie de COVID-19. Donc, c'est simplement de dire un peu ramener à ce niveau-là, dire que de la dissidence, il y en avait aussi à l'époque, puis on voit dans le bilan quand même qu'il y a des apprentissages là, à tirer, des décisions qui ont été prises.
Oui, rappelons-le, le journaliste Philippe Pesant-Bellemare me rappelait justement que c'était une initiative propre à la direction de la santé publique régionale. Ce n'était pas une commande du gouvernement fédéral que de faire cet exercice. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'ils cherchent à en tirer leurs propres leçons. Raphaël, sinon, le bon Gouffret des Îles présentait ses priorités dans le cadre de sa planification stratégique cette semaine.
Oui, il y avait Assemblée générale annuelle la semaine précédente. La fragilité du territoire agricole, la conciliation des usages, préservation des terres agricoles, puis la pérennité des entreprises agroalimentaires, ça demeure les principales priorités, bien sûr, du Bon Gouffret des Îles. 30e anniversaire aussi pendant l'année 2023-2024 pour l'organisme donc, qui œuvre à structurer le secteur agroalimentaire, bioalimentaire. Beaucoup de défis, on l'entend un peu partout au national. C'est difficile en agriculture en ce moment. Il y a beaucoup d'imprévisibilité au niveau climatique notamment, qui fait qu'il faut se repositionner. Mais le coût des intrants aussi est très élevé. Donc, comment garantir finalement d'avoir un écosystème fort là, dans ce secteur-là de l'économie? Cette année, justement, on avait sorti le portrait économique du secteur où on a pu voir, je ne me souviens plus les chiffres exacts, mais c'était quand même assez important là, ce que ça représentait dans l'économie récréo-touristique, mais aussi alimentaire, parce qu'il y a évidemment, ça se rejoint là, dans l'offre qu'on a ici. Donc, l'accès aux produits locaux, évidemment, aussi, ça demeure très important. La promotion, la relève entrepreneuriale, ça aussi. Le nouveau schéma d'aménagement municipal qui s'en vient, ça aussi, ça fait partie des priorités là, pour le Bon Gouffret, de s'assurer que ça vient répondre, finalement, aux enjeux dans le monde agricole, mais aussi vraiment au niveau de la conciliation des usages. Et ce qu'on disait là, pour la prochaine année, discussion pour inclure de plus en plus de produits locaux dans l'offre alimentaire au niveau des institutions publiques, les CPE, le CIS des Îles. Caroline Jonf me disait qu'il y a déjà beaucoup d'efforts qui se font à ce niveau-là, mais il y a des visées gouvernementales là, d'augmenter finalement la proportion de produits locaux dans les institutions. Donc ça, on continue en ce sens-là. Et on va inaugurer cet automne un sentier éducatif, sensibilisation aux enjeux agricoles. Ça, j'ai bien hâte de voir là, ce qui en relève.
Et bien sûr, si ces enjeux vous intéressent, restez à l'écoute de ces films parce qu'on aura des nouvelles à vous mettre sous là-dedans.
Assurément, assurément. Oh, t'es allé, oui.
Je suis allé là.
C'est bon.
Et en terminant, en rafale, Laurence, on a suivi aussi d'autres actualités cette semaine.
Mais tout d'abord, il faut souligner le départ du directeur de la technique de CFM, Paul Turbide, après 43 ans de carrière. Paul Turbide qui a évidemment participé à la mise sur pied de la radio telle qu'on la connaît aujourd'hui en 81, rien de moins. Donc, un bon départ, Paul, mais on est très au courant qu'il risque de faire son petit tour dans les studios.
On garde son numéro pas loin.
moins de 2 ans après son ouverture, Flottille, dis-je bien, artisan libraire, devient un détaillant agréé par le ministère de la Culture et des Communications. C'est la deuxième librairie aux îles qui possède cet agrément, oui. Côté politique, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, était de passage aux îles cette semaine dans le cadre d'une tournée provinciale. Il indique que cette démarche est inscrite dans la préparation d'un congrès l'automne prochain avec à l'ordre du jour l'autonomie des régions. Je vous propose de réécouter l'entrevue de M. Duhaime sur le site de cfm.ca. Et finalement, petite nouvelle qui fait chaud au cœur, la Fondation Santé de l'Archipel a inauguré la salle d'attente en oncologie Vague d'espoir qui rend hommage à la famille Richard, mais qui offre dorénavant beaucoup plus de confort aux patients qui suivent des traitements contre le cancer.
C'est un bon exemple, ça, de comment une petite idée peut décoller dans une famille et 6 ans, 7 ans plus tard, ben, ça amène quand même des effets très, très, très concrets dans le milieu. Donc, c'est un peu un rappel de, tu sais, des fois, on a des idées pour se dire, c'est-tu vraiment pertinent? Peux-tu vraiment changer quelque chose? Mais ça, c'est un exemple de, on peut finir par changer quelque chose.
Merci, Raphaël. Sur ces bons mots, je vous remercie tous les trois, Raphaël, Florence et Laurence, pour votre participation à cette édition de l'émission L'épreuve des faits. Je vous souhaite une excellente fin de semaine.
Bon week-end.
Merci.
À la semaine prochaine.